Le Chat Noir Productions vous présente, de Laurent Garnier et David Brun-Lambert, aux éditions Flammarion, Electrochoc. Les derniers mercredis de chaque mois, retrouvez Electrochoc, le livre de Laurent Garnier et David Brun-Lambert, narrant toute l'histoire de la techno-music, racontée et vécue par Laurent Garnier, des années 80 jusqu'aux années 2000, la lecture se mêlant aux morceaux en marge dans le livre qui ont marqué Laurent au cours de toutes ces années, qui ont marqué l'histoire de la dance music.
Salut à tous, 11e édition de l'émission Electrochoc. Laurent Garnier de retour de Détroit dans le chapitre 8 du livre. Avec lui, partons maintenant survoler les grandes rêves européennes des années 90. Bienvenue dans le Vertigo.
Parallèlement, Eric Napora avait décidé d'organiser une soirée dont les bénéfices seraient reversés à une association humanitaire de lutte contre le sida. Une collaboration avec l'association AIDS se mit en place. Napora leur proposa de monter un événement techno dans le foyer de l'Arche de la Défense à Paris et de s'occuper de tout ce qui touchait à l'organisation de la soirée. AIDS ne prenait que la location de la salle en charge. À l'arrivée, tous les bénéfices allaient entièrement à l'association. La soirée à l'Arche de la Défense se monta en quelques semaines en collaboration avec le label Harthouse. Les artistes Space Lab, Sven Vass et Artfloor acceptèrent de jouer gratuitement pour la bonne cause. Mais le 15 juin 1993, à quelques jours de la soirée AIDS prévue à la Défense et à deux semaines de la rave Oz, parut dans le quotidien L'Humanité un article dévastateur qui relatait la soirée Célébration, organisée par Libération le 5 juin sur les 10 000 mètres carrés de la grande halle de la Villette. Sous l'accroche le phénomène rave, mélange de musique, solitude et drogue, on pouvait notamment lire: présenté comme un simple lieu de délire sympathique et inoffensif, avec ses rites, ses adeptes et son langage, la rave banalise le trafic de drogue, condition indispensable aux rêveurs, la soumission physique, les dérapages de groupes musicaux qui affichent une idéologie néo-nazie. On peut retrouver l'extrait de cet article dans L'Humanité, 15 juin 1993. Ce n'était pas la première fois que ce genre de ragots se faisait entendre. Le jazz, le rock et le punk, en leur temps, en avaient été la cible. Mais cette fois, l'article provoqua un véritable séisme dans le milieu. En effet, au-delà de l'amalgame techno égale drogue qu'il installait, ce papier mit le feu aux poudres. Une salve d'articles allait s'abattre sur le mouvement techno et sur les rêves en particulier, déclenchant par là même une réaction répressive des autorités. Alors qu'Éric Napora et son équipe tentaient d'organiser un pont entre scène techno et humanitaire, l'article de L'Humanité écrivait « Tout d'un coup, ça vous tombe dessus. On se dit, attends, mais où je suis là? Un samedi soir, en plein Paris, à la Villette, il y a des jeunes qui se droguent à l'acide, qui se détruisent, et personne ne le dit, et personne ne le sait, et personne ne fait rien. » Et le 26 juin, ils remettent ça à l'Arche de la Défense, cette fois, et les bénéfices de la fête iront à AIDS pour lutter contre le sida. Un comble. Toujours extrait de l'article de L'Humanité du 15 juin 1993. La chasse aux sorcières contre les rêves et nos ennuis commencèrent là. Affolé par ce que décrivait cet article, AIDS se retira à deux semaines de l'événement de la Défense. Napora chercha un autre bénéficiaire et, pressé par le temps, décida de déplacer la fête dans l'usine de Mosinor qui avait accueilli ses rêves. Le soir de la fête, des journalistes de France Soir firent le déplacement et signèrent un article disant en substance que la valeur d'un DJ était proportionnelle à la qualité des extasies qu'il vendait aux rêveurs. Le climat devint irrespirable. À seulement 10 jours de Oz, Napora et son équipe furent contactés par un journaliste du quotidien régional Le Courrier Picard, qui assurait de sa bonne foi et désirait réaliser un entretien objectif. L'interview se déroula dans de bonnes conditions, mais une semaine avant l'événement, l'article fut publié en dernière page. Et là, stupeur. Le journaliste y décrivait des hordes de hooligans prêts à fondre sur Amiens, devenus à l'occasion de Oz une plaque tournante de la drogue. Le malaise s'amplifia. Un député communiste en profita pour monter l'histoire en épingle, mais la préfecture et la mairie d'Amiens ne bougèrent pas. Malgré le climat tendu, la fête était maintenue. La veille de l'événement, les 200 kW du sound system utilisé par Prince lors de sa dernière tournée européenne furent répartis sur les 3 salles du parc des expositions. Les lumières et la structure scénique étaient prêtes. Les techniciens étaient en train de mettre la touche finale à l'ensemble lorsque deux hommes traversèrent timidement la grande salle, se dirigeant vers Eric Napora. Dans leurs mains, un arrêté préfectoral de 2 pages, égrenant une succession de risques de troubles à l'ordre public. Le Tour de France passant le samedi à Amiens, la ville ne pourra assurer la sécurité du Tour et celle de la rave party. Le bal de la police ayant lieu le vendredi soir, les policiers ne seront pas en mesure d'assurer la sécurité de la rave party, etc., etc. 22h, la machine administrative était en marche. La soirée n'aura pas lieu. J'étais à Cologne lorsque j'appris la nouvelle. Effondré, je jouais mon set et pris le premier avion le samedi matin. J'arrivais à Paris dans un état de nerfs effrayant. Embarqué dans ma technomobile, fonçais sur Amiens et découvris une ville fantôme. Les commerçants avaient barricadé leurs boutiques avec de lourds panneaux de bois et 3 compagnies de CRS avaient été déployées pour assurer la sécurité du centre-ville. Vers midi, le public commença à arriver de toute l'Europe, en train, en voiture, en bus, ignorant la déception qui les attendait. À Paris, FG organisa débat et libre antenne autour de l'interdiction de Oz. Une manifestation de protestation pacifique s'improvisa au Trocadéro, sous l'œil d'une compagnie de CRS. Puis les 6000 rêveurs se déplacèrent sur l'île aux Cygnes, un bras de terre au cœur de la Seine, face à la maison de la radio. Mais à la tombée de la nuit, il fallut bien canaliser les milliers de rêveurs disséminés entre Amiens et Paris. Plusieurs organisateurs montèrent des soirées en catastrophe. Elles furent toutes payantes. Dans la région d'Amiens, une partie du public de Oz découvrit le sound system des Spiral Tribe, tribu anglaise expulsée du territoire britannique suite à l'adoption de la Criminal Justice Bill, et à une sévère descente policière sur le site de Castle Morton où ils donnaient une fête sauvage. Réfugiés en France, les Spiral avaient accepté de jouer à Oz. Lorsqu'ils apprirent que la soirée était annulée, ils posèrent leur sound system dans un champ de la région d'Amiens et improvisèrent ce qui fut le premier technival français. Une rave sauvage, sans structure ni organisation officielle. Pour Eric Napora et son équipe, les ennuis ne se terminèrent pas là. Fermeture du magasin de disques TSF, dépôt de bilan du magazine Technocoda après 2 numéros, remboursement des préventes, fermeture de Mosinor. Au milieu de tout ça, un signe d'humanité. Quelques jours après l'annulation, un type entre dans la boutique TSF. « Bonjour, je voudrais une prévente pour Oz. » Silence. « Oz a été annulé, j'ai les boules. Je sais que vous êtes dans la merde et vraiment, je voudrais vous acheter une prévente. » Oz avait été sacrifié par les autorités françaises pour l'exemple. Les médias firent leur chou gras de l'amalgame rêve égale drogue.
L'agence France Presse publia le 29 juin 1993 une dépêche qui contribua à propager la peur de la techno au sein des rédactions nationales. Dans cette dépêche, on pouvait notamment lire « Sur la piste de danse, il est 1h et le maître de cérémonie est arrivé. C'est une femme entièrement vêtue de noir qui donne le signal, le bras levé. Hypnotisé comme pendu à ses lèvres, les danseurs se déchaînent alors sur un son métallique, violent, envoyé à 20 000 watts, qui fait augmenter le rythme cardiaque. Une violence censée accompagner l'effet de l'ecstasy et qui donne le nom d'acid music. » Plus loin, on lit « 2 heures plus tard, après le premier déferlement, il commence à s'effondrer dans un coin de la salle. Les yeux hagards, le corps flasque. Il se laisse glisser le long du mur, comme inanimé. D'autres encore quittent la salle en titubant, les pupilles dilatées, l'air effrayé. » Les patrons des deux principaux médias de la house culture à Paris, FG et Radio Nova, furent convoqués à la préfecture de Paris. Jean-François Bizot et Henri Morel furent alors poliment invités à ne pas promouvoir les rêves sur leur antenne. Puis une circulaire rédigée par la MILDT, la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, et intitulée « Soirée rêve, des soirées à haut risque », circula dans les préfectures. Cette circulaire, fortement inspirée de la Criminal Justice Bill anglaise, dressait un portrait minutieux des rêves, de la consommation d'ecstasy jusqu'aux caractéristiques de la musique jouée. La circulaire fut prise au pied de la lettre par les gendarmeries et ce furent les premiers dérapages.
En 1994, les Pingouins, un collectif d'étudiants montpelliérains, organisaient la 3e édition de Borealis, événement techno dont les deux premières éditions avaient réuni jusqu'à 11 000 personnes dans les arènes de Nîmes. La chasse aux sorcières anti-rêve battant son plein, la mairie de Montpellier leur refusa l'accès de l'espace Gramont de Montpellier, un immense terrain à la périphérie de la ville. Les Pingouins décidèrent d'organiser à Lyon un pendant hivernal de Borealis, Polaris. Mais depuis l'explosion des rêves dans la région Rhône-Alpes, le syndicat lyonnais des discothèques s'inquiétait de voir la jeune clientèle déserter les clubs le week-end. Il exerça des pressions auprès de la préfecture, l'incita à faire un exemple, et la veille de Polaris, il fut décrété que la rave ne pourrait se tenir que jusqu'à minuit. À la suite de cet événement techno avorté, naquit Technopole, association luttant contre les interdictions qui frappaient la scène rave hexagonale. La palme du grotesque revient au maire d'une banlieue de Toulouse qui interdit une rave dans sa ville pour atteinte aux bonnes mœurs, entre parenthèses pornographie. Le flyer mentionnant Live Performance Scan X. Sans commentaire. Parmi les innombrables rêves cassés par la police en France entre les années 93 et 96, certaines tournèrent au pugilat. Lors d'une fête du sound system parisien Technocrate, organisée pour célébrer la mémoire d'un de leurs amis décédés, des escadrons de CRS s'invitèrent au petit matin. Là, ils firent face à 4000 rêveurs, sur lesquels ils firent pleuvoir des bombes lacrymogènes, puis ils détruisirent tout le matériel. Il y eut quelques coups, des courses-poursuites, et pour finir, plusieurs arrestations. Dans le sud, comme dans la région lyonnaise, la police traquait les rêves avec acharnement, considérant parfois DJ et organisateurs comme d'authentiques criminels. À cette période, un grand nombre de DJ parisiens furent mis sur écoute ou visités par les stupes, à l'aube, pour une fouille en règle de leur appartement. L'origine de toutes ces manœuvres, intimidation ou pression policière, était bien sûr la drogue. Présente dans ces soirées, elle était généralement vendue par de véritables réseaux organisés de malfrats. Ce sont en partie eux qui ont contribué à pourrir la scène rave et à dégoûter DJ, raveurs et organisateurs de la première génération. Mais ce cassage en règle de la scène rave a aussi une autre origine, d'ordre économique celle-là. À l'exception de Oz et de quelques autres raves, ces fêtes ne reversaient aucune taxe, TVA, URSSAF, SACEM, etc., à l'État. Or, chaque week-end, des milliers de personnes se déplaçaient dans les raves, le public déboursant entre 100 et 200 francs par entrée. Sans compter les boissons, vendues sans licence, les sommes engrangées par les organisateurs étaient colossales. Et l'on comprend alors peut-être mieux pourquoi les préfectures n'hésitaient plus à multiplier les actions policières d'envergure. Mais quelles qu'en soient les raisons, la machine à interdire était en marche. We'll be right back. 1994, en France, il était devenu quasiment impossible d'obtenir des autorisations légales pour organiser une rave dans des conditions de confort acceptables. Tandis qu'une partie des organisateurs persévérait et appelait les autorités à engager le dialogue, une autre frange glissa vers des fêtes plus sauvages, les free parties. La scène free party française se construisit en réaction aux raves. Le discours, plutôt que de payer 200 francs pour assister à une rave dans un lieu légal, avec une structure et des DJ bookés pour l'occasion, les organisateurs de free party débarquaient avec leur sound system, squattaient un endroit, et qu'importe qu'il y ait une équipe de sécurité ou des sanitaires. Importées d'Angleterre, ces fêtes furent une autre façon de concevoir la nuit techno. Avec l'avènement des free parties, on vit un réel esprit de tribu débarquer sur la scène rave française, et l'on vit des groupes de travelers, membres de communautés de marginaux regroupés autour d'une techno radicale, sillonner le pays et rallier les fêtes sauvages dans leurs camions d'un autre âge. Des sound systems français se créèrent, les psychiatriques par exemple, qui organisaient de grandes fêtes gratuites dans l'esprit de leurs grands frères anglais, les Spiral Tribe. Mais bientôt les free parties se divisèrent à leur tour. Pour certaines, les hangars devinrent de plus en plus pourris et l'ambiance intenable, sans plaisir dans la musique, et dominée par une vision limitée à un mot d'ordre, on ne paye pas. Pour d'autres, l'état d'esprit communautaire et la qualité de la musique diffusée primaient encore. Si la chasse aux rêves était ouverte, si la scène rêve éclatait en conflits d'intérêts, querelles et rivalités, une zone de trêve en forme de majeur pointée vers les autorités fut proposée en plein cœur de Paris. Le pont de Tolbiac abrita durant toute l'année 94 les afters les plus spectaculaires de la capitale. Sur ce quai désert, situé face à la Grande Bibliothèque de France, Manuel Malin et le promoteur Rakam imaginèrent un after à ciel ouvert. Les afters techno-parisiens sont des secrets bien gardés. La péniche Ruby fut le rendez-vous mythique parisien. D'autres initiatives déplaçaient ces fêtes matinales dans des boîtes de la capitale ou, comme après la rave Apocalypse en 94, dans une salle de plusieurs milliers de mètres carrés appartenant à France Télécom, située sous la tour Montparnasse. Sous le pont de Tolbiac, dès 8h du matin, toute la scène techno-française se réunissait. L'essentiel des DJ parisiens de l'époque s'y produisit, quel que soit leur style musical de prédilection. Le public qui se pressait là était issu de toutes les tribus techno. Hardcore, techno, free party, trance. Des clubbeurs fraîchement sortis des Folies Pigalle venaient se finir là. D'autres choisissaient d'aller se coucher, puis une fois reposés rejoignaient le pont de Tolbiac. Très vite, cet after devint leur rendez-vous dominical rave parisien et fut victime de son succès. Les organisateurs choisirent alors de l'arrêter. Plusieurs mois plus tard, la seconde édition de la rave Apocalypse s'organisa. Manuel Malin et Rakam choisirent de donner une dernière danse au pont de Tolbiac à l'issue de cette soirée, comme au bon vieux temps. Des affiches noires et blancs précisant « Dimanche, pont de Tolbiac à l'ancienne » furent placardées dans les boutiques techno de Bastille. Le dimanche matin, le quai fut envahi par 800 rêveurs qui dansaient au soleil et en plein Paris. À 14h, 400 CRS prirent le pont de Tolbiac d'assaut. Contrôle d'identité, fouilles, interpellations, le mot d'ordre passa entre les rêveurs. Personne n'organise, tout le monde ferme sa gueule. Manuel Malin était derrière les platines. Un policier se dirigea vers lui et ordonna de couper le son. Manu joua un dernier disque par provocation et prit un coup de matraque. Tout autour, sur le pont, des gens prenaient des photos.
Ça, mais ça fait rien de truc. Ouais, bon, c'est bien gentil tout ça, mais
L'ambiance qui régnait dans la scène rave française était devenue intolérable pour une partie des raveurs, DJ, organisateurs de la première heure. Ne se reconnaissant plus dans la radicalisation du mouvement, certains d'entre eux revinrent à des fêtes plus confidentielles. Bientôt, comme en Angleterre, la house et la techno allaient trouver leur salut grâce à un retour vers les clubs. Grâce aux soirées Temple, organisées par Pierre Herrmann et Thierry Vincent, Transbody Express et Wake Up, le Rex était devenu le club phare de la nuit techno parisienne. Il s'était inscrit sur la carte mondiale de la techno, accueillant dans ses murs des artistes d'envergure internationale, initiant du même coup le public aux évolutions de la musique électronique. Le Rex avait glissé vers la techno avec succès, renouvelant entre 92 et 94 son esprit et son public. D'un point de vue strictement économique, cette musique était devenue rentable. En 95, le Rex était parvenu à la fin de son aventure rock. Le public avait vieilli ou ne s'était pas renouvelé et Christian Paulet prit une décision radicale. Le Rex devait renaître en se dédiant à la musique électronique. Encore une fois, un club qui ne prend pas de risques est un club qui se meurt. Il n'y avait pas de club à Paris dans lequel il était possible d'écouter de la techno chaque nuit de la semaine. Le Rex prit ce risque. La scénographie du club fut modifiée, la cabine fut déplacée et installée sur l'ancienne scène de concert. Le sol du dance floor fut creusé afin de gagner plus de hauteur sous plafond. Les lumières furent changées, un nouveau mobilier fut construit sur mesure. Les murs furent peints en orange vif et bleu électrique. Enfin, un sound system flambant neuf, un turbo sound, la Rolls du genre à l'époque, fut installé. Le Rex Club, dans sa version techno, ouvrit ses portes en septembre 1995. Un âge glorieux s'annonçait. Le 5 boulevard Poissonnière allait accueillir durant la décennie à venir tout ce que le monde techno comptait d'artistes fondamentaux. Mais en coulisses, la réouverture du Rex eut lieu dans un climat tendu. Assimilé à l'amalgame techno égale drogue, le club était observé par les autorités. Différentes énergies de la scène techno-parisienne se concentrèrent sur le Rex Club. En partie des organisateurs lassés de dérives de la scène rave et qui désiraient désormais travailler dans une structure légale. Surveillé par la préfecture, Christian Paulet fut immédiatement confronté à la problématique des drogues. Il adopta une position claire. Les drogues ne passent pas la porte du Rex. Et les promoteurs invités à organiser leur soirée dans son enceinte sont tous des professionnels. En d'autres termes, ici on écoute de la musique techno et on vient danser. Shot in the Dark, mon premier album paru sur F Communication en octobre 1994. Début 1995, Ludovic Navarre publia Boulevard sous le nom de Saint-Germain et mit F-Com sous le feu des projecteurs lorsque les ventes de son album atteignirent les 200 000 exemplaires. Signe des temps, on vit la presse française revenir prudemment sur ses allégations et commencer à envisager la techno comme un mouvement avec lequel il allait falloir compter. Ses premiers articles positifs confondaient house music et go-go dancer, rave et soirée mousse, techno et drag queen, qu'importe, c'était toujours ça de prix. Bientôt ce serait la scène house et la techno française elle-même qui perceraient les voies du marché international du disque. Le Chat Noir Production vous a présenté Electrochoc.
Retrouvez l'émission sur le forum le Chat Noir forum
vous a présenté
http://lechatnoir.forum.com et ça s'écrit lechatnoir.forum.com et deux fois par mois le mercredi soir sur Radio Campus Bordeaux 88.1
vous a présenté Electrochoc.